Bonsoir et bienvenue dans Certains Lama Show, l'émission qui débriefe les films à la sortie d'Arkham. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Salut Karl.
Salut Thomas.
Cette semaine, encore un programme très varié. On a un film canois avec Atlantique.
On a également un documentaire étrange avec Psychomagie, un art pour guérir.
Un film de genre avec Gérard Darmon, Vous êtes jeune, vous êtes beau.
Une comédie de genre de Géraldine Nakache avec J'irai où tu iras.
Et un blockbuster technologique, Gemini Man, avec Will Smith et Will Smith. Mais ce n'est pas tout. Et oui, elles sont impressionnées derrière. Normalement, il sort la semaine prochaine, mais on ne pouvait pas attendre, on l'a vu. Alors on enregistre, on a modifié l'intro exprès pour ça et on a chamboulé le conducteur parce qu'on n'en pouvait plus. On voulait vous le sortir le plus tôt possible. Il sort la semaine prochaine et donc le 9 octobre. C'est, vous l'avez deviné, Joker.
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
You can say that again, pal.
Joker, un film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Il interprète un comédien, un clown, atteint d'un mal particulier puisqu'il a un rire pathologique. Il rit assez brutalement, comme ça, sans raison apparente, ou surtout dans les états de stress, de manière assez incontrôlée.
C'est manifestement pas le seul truc qu'il a, parce qu'il est très vite dit qu'il est sous 7 médicaments, qu'il a un passé en hôpital psychiatrique. On n'a pas ça juste pour des fous rires nerveux. Donc, c'est pas un gars sain dès le départ.
Et les aléas de la vie, la pression du quotidien et de la société en général, plus 7 médicaments et une mère psychotique, vont faire que ce jeune homme va devenir, au fil du film, le Joker, le principal ennemi, l'ennemi le plus connu de Batman, le Chevalier Noir.
Le film s'entame sur lui en train de faire le clown de rue pour attirer les gens dans un magasin. Et il se fait voler sa pancarte, il poursuit les jeunes qui vont le tabasser. Et donc on nous montre que c'est en grande partie déjà l'un des éléments déclencheurs de sa folie, qui est bon, déjà assez prononcée, mais qui va s'accentuer à partir de là. Donc ça se passe évidemment à Gotham. On aurait limite pu penser que ça pouvait se passer ailleurs, dans un univers où les gens regardent Batman et que le mec va se transformer en Joker parce qu'il connaît le Joker. Parce que c'est la première fois, même si toutes les imageries de Gotham qu'on a vues sont une exacerbation de la violence que les créateurs de comics voyaient dans le monde, c'est vraiment la première fois où je me suis dit, j'ai pas l'impression de voir une exagération de violence dans Gotham. J'ai l'impression de voir le monde tel qu'il est aujourd'hui, la violence telle qu'elle est aujourd'hui, et du coup de me retrouver dans un cadre beaucoup trop réaliste pour que je passe un moment sain, en fait. Ce qui n'est pas forcément une tare, mais en tout cas, dès le début, bon, même si c'était très annoncé, on se rend vraiment compte que si jamais on aimait un rire, ce sera un rire extrêmement jeune et qu'on ne va pas vraiment rire avec le Joker, quoi, que ça va être quelque chose de beaucoup plus profond.
Un film hyper réaliste. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça fait penser, alors c'est très inspiré de Taxi Driver, par exemple.
Beaucoup de Scorsese.
Hein. Beaucoup de Scorsese également. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de film-là, on n'était pas obligé de mettre la licence DC dessus, la licence Batman, la licence Joker. Et en même temps, je me demande si tous les gens qui étaient dans la salle seraient venus si on n'avait pas mis ça.
Moi, je pense justement que c'est la première fois qu'on voit une origin story aussi détaillée du Joker. Le principe du Joker, souvent, à la fois dans les comics, dans les films et dans la série animée, c'est qu'on sait pas grand chose de lui, c'est qui starie. Et en fait, l'idée c'est qu'un peu tout le monde peut être le Joker. Et le fait que le film s'appelle Joker, qu'il est adapté de ce personnage que même si on connaît pas Batman, on sait que c'est un taré, on sait que c'est un criminel qui est un clown, et bah du coup, il y a une ironie dramatique parce qu'il ne devient vraiment le Joker que dans les dernières minutes du film. Donc pendant tout le film, nous on sait ce qu'il va devenir. Alors que déjà lui-même ne le sait pas, mais surtout les gens autour de lui, dès qu'on le voit s'approcher d'un enfant, parce que c'est un clown, c'est un comique, il essaye de faire sourire les enfants, mais ça devient supra flippant.
il fait flipper les mamans quand même. Quand il fait une blague à un gamin dans le bus, la mère est pas rassurée non plus.
Oui, non, mais ça c'est normal, mais je veux dire. Ah, bon, je peux pas trop spoiler ça.
Non, mais en gros, dès qu'il va faire une blague à un gamin, il y a quelqu'un qui arrive derrière parce qu'il est quand même flippant.
Non, mais dès qu'il s'adresse à quelqu'un, dès que tu le vois un petit peu se renfermer sur lui-même ou que la musique monte un peu, il y a un bon travail du son dans. Enfin. Oui, enfin, il y a une bonne réale en général, même. C'est vraiment assez bien foutu. Et puis, vous parlez du fait que ça réalise. Batman, en général, c'est à hauteur d'homme, à moins qu'il soit avec la Justice League, où là, c'est un autre cas de figure. Mais... Donc là, c'est à hauteur d'homme, et surtout, bah, ça fait du bien de voir Joaquin Phoenix se balader dans des vraies pièces, dans des vraies rues, parler à des vraies gens. C'est, quand il jette un truc, on sent qu'il a attrapé un truc et qu'il l'a acheté, quoi. On n'a plus ça dans les films de comics. Et on n'a plus non plus un film qui se soucie pas de préparer 17 autres films derrière. T'as juste l'histoire du Joker, et c'est fini, on te lâche à la fin.
Oui, il n'y a pas un vieux teaser, je reviens dans un prochain film.
Bon, je t'avouerai que moi, dès l'instant qu'on avait dit Joaquin Phoenix dans le rôle, si tu vois un peu comment fonctionne le gars, on savait qu'il accepterait pas autre chose qu'un one-shot. Ou alors vraiment sous couvert d'un scénar monstrueux où il pourra vraiment faire quelque chose, mais ce mec adore les défis, donc... Faire deux fois le même défi, ça le tente pas.
C'est Warner, hein. Ils peuvent toujours t'avoir par derrière au dernier moment.
Merde, beaucoup de trucs comme ça, en fait, justement. Hein, ce mec s'est vachement mis en danger à cause de ça. Enfin, moi, la logique du gars fait que. Moi, en fait, jusqu'à. Alors, on parlait de Scorsese, c'est pour ça que je voulais y venir. On va pas trop s'attarder dessus, mais dans tous les éléments, c'est quand même ça. Mais je m'en étais déjà douté pour une seule chose, parce qu'ils ont poussé la référence à ce point-là, c'est De Niro. C'est De Niro qui joue un animateur qui en plus va moquer le clown triste en montrant des vidéos de lui en disant « Regardez, ça c'est un gars qui essaye d'être moi, c'est un gars ridicule, vous voyez, il n'y a qu'un seul, enfin en gros il y a les personnes capables d'être marrantes et il y a ces espèces de troufions alors qu'il se moque juste d'un pauvre gars dans un café-concert et c'est là que tu te montres que la violence d'un mec qu'il admire est aussi tout aussi cruelle alors qu'il avait tous ses espoirs envers ce mec. » Toute la première partie du film, jusqu'à l'explosion et jusqu'à les premières vraiment vagues de transformation, où ça devient vraiment clownesque, c'est un remake de La Valse des Pantins, mais de A à Z. Ça a pris tout le manuel de La Valse des Pantins. Le mec est avec sa mère, il s'en occupe, il y a que elle qui rit à ses blagues et qui est persuadée qu'il a un talent comique et que potentiellement il peut y arriver. Il se fantasme dans le show de son idole et il va le rencontrer. À partir de là, ça change. Mais waouh quoi. Mais après, d'un autre côté, moi ça me va. C'est un de mes films préférés. J'étais ravi et c'est super bien utilisé. C'est-à-dire, ça va donner envie à ceux qui ne l'ont pas vu de le voir. Et je suis ravi d'avoir vu De Niro là-dedans parce qu'il est en train de revenir en force. Et là, ça faisait trop du bien. Tout le monde est parfait dans ce film. C'est incroyable. Joaquin Phoenix. Bon, on sait que c'est Joaquin Phoenix, mais j'ai vu le Joker. J'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai vu un personnage. J'ai vu un personnage travailler. J'ai vu ce mec qui a dû rentrer dans une névrose de malade pour accomplir une prestation pareille. Et ça. Ça vaut le coup d'être relevé.
Ah, mais il a travaillé son rire, il a perdu 25 kilos. Enfin, oui, il a bossé, quoi. Il a bossé. En plus que, oui, le physique américain. Ah, l'américaine.
Le film s'inscrit dans toute une histoire de la comédie cinématographique. Il y a pas mal de références à Chaplin, à Fred Astaire. Enfin. Et on ne l'a pas précisé, mais le film est légèrement anachronique. Il se passe, sans être spécialement précisé, années 60, 70...
Enfin, on a cette esthétique-là.
Voilà, c'est clairement dans ces délires-là. Et du coup, ben, les comédies auxquelles ils font référence sont les grands classiques. On les voit, Matthew Chaplin, dans un ciné. Donc tu peux même te dire que c'est les années 30 à ce moment-là, mais il n'y a pas de ségrégation. Enfin.
Ouais, mais c'est un gala.
Oui, c'est un gala, mais bon, ils passent pas certains mêmes shows.
Oh là là, il y a du niveau, il y a du niveau, il y a des références.
D'ailleurs, niveau référence, c'est un de ces films de comics qui ne te bombarde pas de références comics.
Ouais, et oui, parce qu'on aurait pu imaginer un remake de The Killing Joke, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Et il y a aussi un truc qui est particulier, c'est qu'on le disait, on va suivre le Joker, il est quasiment sur tous les plans, hein, puisque en même temps c'est son film, c'est normal, mais... ça change du Batman habituel où on ne voit jamais le Joker autrement que quand il va provoquer Batman ou quand il se bat avec lui directement. On se dit c'est un génie du mal, il fait un truc dans les coulisses, on ne sait pas ce qu'il fait et on se demande. Là, on est avec lui. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'il y a une part de ses actes qui vont provoquer les événements, mais il y a aussi déjà ce chaos qui l'accompagne. C'est-à-dire qu'il se joue aussi du chaos, il surfe aussi là-dessus, et il y a les événements qui vont le faire avec lui. C'est un peu l'œuf ou la poule. Le Joker, finalement, il accompagne ce qui se passe dans la ville et le climat chaotique qui est... Mais les références, ouais, elles sont pas comics, comme tu disais, elles sont plutôt ailleurs, n'est-ce pas Thierry ?
Elles sont très cinématographiques en fait. Donc je sais pas du coup si c'est, parce que j'ai vu qu'ils étaient deux à l'écriture, Todd Phillips et une autre personne, donc je sais pas si c'est Todd Phillips qui a voulu inclure autant d'éléments de références cinématographiques, parce que c'est pas quelque chose qu'on a déjà trouvé dans son cinéma, et on va pas revenir sur son cinéma.
C'est son meilleur film.
Oui, c'était pas compliqué. Hein.
Ouais, voilà, c'est un de ces mecs, il arrive, il te chie ça et il repart faire ses blouses.
Ne vous inquiétez pas, j'ai Very Bad Trip 36 avec Zach Galifianakis qui vient d'être écrit.
Ah, War Dogs, j'avais bien aimé, moi.
Oui, pour revenir sur la polémique, c'est vrai que le fait qu'on te sorte que ce film est un appel à la violence, c'est assez antinomique puisque ce film, ils s'en sont pas cachés non plus. Et de toute façon, beaucoup de gens qui ont créé, je pense, des timelines autour du Joker, même dans les comics, ont dû clairement s'inspirer de ça. Ça vient de L'Homme qui rit de Victor Hugo, c'est dit clairement. Du coup, nous, on a fait l'effort de le voir cette semaine.
Alors, voir le film adapté du roman.
Oui, non, voilà, de voir le premier film de 1928 adapté du roman de Victor Hugo. Et en effet, tout parle de la société malsaine qui peut pousser les hommes à la folie. C'est de ça que parle le film, en fait. Ça parle d'un mec qui part avec les bonnes intentions, mais qui a quelques tares. Dans le roman de Victor Hugo, bah, c'est un mec qui a un sourire d'ange, le pauvre. On a toujours l'impression qu'il se fout de la gueule du monde, et en réalité, bah, il va pas bien. Et là, c'est un peu pareil. C'est un mec qui peut pas s'empêcher de rire à des moments cruciaux, et du coup, passe pour un gars qui se moque, donc du coup, va être rejeté de la société. Et c'est là que ça va le pousser à vouloir s'affirmer, et il ne voit pas d'autre façon de s'affirmer que par ça. Et du coup, tous les gens vont le suivre parce que les gens se sentent dans le même désespoir. On voit des gens dans la pauvreté, on voit des gens... Donc le film n'est pas en train de dire « prenez les armes », le film est en train de dire « oh société, tu vas commencer à accepter un petit peu les gens que tu considères comme pas adaptés, ou tu vas te rendre compte que c'est toi qui les adaptes pas en fait ». Voilà, le film parle surtout de ça.
D'ailleurs, tu parles de L'Homme qui rit de 1928, il sort en version restaurée au cinéma.
Allez-y, c'était super chouette. Et vous, si vous y allez après ou avant avoir vu Joker, vous verrez en plus toutes les similitudes et le fait à quel point, bah justement, ce sont des thématiques hyper importantes et que l'aliénation sociétaire, on en parle depuis très longtemps. Et en plus, ça vient de chez nous.
Joker est inspiré de Victor Hugo, qui l'eût cru. Oui, en plus, il y a au fil du film, dans la construction du personnage, le truc central, c'est qu'il essaye d'être heureux. Sa mère l'appelle Happy, c'est un comique, mais le mec est complètement... Enfin, il est névrosé as fuck.
Comme beaucoup de comiques.
Oui. Et tout le film, il essaie d'être heureux jusqu'au moment où il embrasse cette tristesse permanente qui est... Alors, est-ce que c'est Gotham Est-ce que personne ne peut être heureux avec Gotham? Est-ce que c'est la société en général? Parce que Gotham... à la base, c'est un miroir de New York, New York des années 30-40. Est-ce que c'est les autres qui, comme le dit Joker à la fin, ne font plus attention, ne se mettent plus à la place des autres?
Oui, on rejoint cette solitude et cette société qui vient écraser l'individu, comme le disait Thierry, effectivement. Bon, on applaudit des deux mains. Oh, oui. Joker, un lion d'or bien mérité.
Amplement mérité, quoi. C'est super cool que, avec l'annonce d'ici, justement, les gens aient quand même la curiosité de le mettre dans un festival comme ça. Parce que c'est vrai que quand tu te dis ça, c'est pas forcément évident. Donc j'imagine qu'ils ont bien vendu le film pour ça. Et après, c'est amplement mérité. Et puis ça touche à des thématiques qui, de toute façon, sont très très loin, oui, de ce qu'on peut croiser, malheureusement, dans les adaptations d'ici, qui pourtant sont bel et bien sur le papier, quoi. Il suffit de fouiller un peu.
Batman fête ses 80 ans. Et Troll Ultime, c'est un film Joker qui sort et pas Batman.
Les deux derniers films DC aussi bons, c'était Dark Knight et Lego Batman. Donc là, DC ne va pas comprendre et vont croire qu'on veut juste du Batman, alors qu'il faut juste bosser les autres persos.
Et faire des films sympas. Et
surtout faire des bons films, voilà, parce que là, t'as quand même... Alors bon, je vais pas comparer aux films DC qui ont quand même, même si par exemple le DCEU là, était foiré sur plein de points, il avait au moins l'avantage d'avoir des auteurs qui essayaient de faire des trucs. C'est pas comme Marvel où t'as juste une recette. Mais non, voilà, engagez des auteurs et surtout faites de la belle réal. Là, on a de la réal, mais au cordeau. C'est beau à regarder, c'est prenant, il y a de la symbolique dans les plans, c'est travaillé. C'est pas juste, regarde, il fait ça, parce que ça se suffit. Non, c'est travaillé, c'est de la mise en scène, c'est du cinéma. Donc, pour parler de la petite déclaration qu'a fait le monsieur dont s'est beaucoup inspiré ce film, Martin Scorsese, il faut que tu vois ce film, tu vas te dire ça. C'est du cinéma.
Et en plus, là, il n'y a pas des millions d'effets spéciaux en images de synthèse.
Il n'y en a pas, quoi.
Je pense que les gens ne prennent pas vraiment des balles dans la tête.
Ah bon?
Il me semble avoir repéré 3G classes de son numérique, mais honnêtement, à ce stade, c'est vraiment vouloir trouver des erreurs.
Ouais, pour un film de super-héros, C'est Panic Fury sur un fond vert avec un bout de bois pour faire pour faire un mec avec un flingue dans une chambre, quoi.
Ça coûte combien de millions d'asseoir Samuel Jackson dans une chaise ?
Joker. Gros coup de cœur de la semaine, là. Gros coup de cœur. Est-ce que c'est votre meilleur film de la semaine ? Comme ça, au moins, on n'a pas besoin d'écouter le reste de l'émission. Non, je déconne. Mais écoutez, est-ce que les autres films de la semaine sont à la hauteur ? On écoute ça tout de suite. Atlantique de Mati Diop, Grand Prix à Cannes 2019, un film d'une heure 45. L'histoire se déroule à Dakar. Souleymane travaille sur un chantier. Mais lui et ses collègues ne sont pas payés depuis bientôt 4 mois. Et comme ils doivent nourrir leur famille, leurs femmes, leurs enfants, ils décident de faire grève déjà dans un premier temps. Et comme ils ne sont toujours pas payés, ils prennent la mer en quête de l'Espagne pour trouver de l'argent, pour trouver un travail plus rémunérateur. Le souci, c'est que Souleymane est amoureux de la jeune Ada. Mais celle-ci reste au continent. La réalisatrice va filmer cette absence. Atlantique, c'est l'histoire d'une absence finalement. C'est l'histoire de l'absence des hommes qui vont partir, qui vont prendre l'océan, qui vont traverser l'Atlantique, qui vont longer de l'Atlantique pour une vie meilleure. Mais justement, qu'est-ce qui reste ici ? Quel est le vide qu'on laisse ?
L'angle est super intéressant parce que c'est vrai que tu t'attends pas du tout à ce que ça parte dans cet horizon-là. Surtout que le début du film, à part le moment où tu vois justement Souleymane et Ada qui vont sur la plage pour essayer de vivre leur histoire assez impossible puisque Ada est promise à un autre homme, donc les traditions familiales sont très pesantes. Et du coup, tu t'attends vraiment à ce que ça reste sur Souleymane. On voit d'ailleurs un énorme passage où on voit l'oppression autour de lui. C'est quand il est dans cette espèce de camion qui est filmé en travelling, mais en continu. Et justement, on le voit lui qui souffre énormément. Les gens chantent autour de lui, c'est l'oppression, il n'en peut plus. Et du coup, oui, tu t'attends à ce qu'on suive éventuellement leur périple, la manière... Moi, je pensais vraiment que ça allait traiter de la manière dont, justement, les migrants prennent le large, enfin, comment ils vivent sur leur chaloupe, et comment ça se passe en matière, enfin, pour l'entrée en Espagne, pour ce genre de choses. Et au final, pas du tout. C'est vrai qu'on retourne juste sur Ada, sur les moments où elle espère que Souleymane revienne, où au final, personne ne sait réellement s'il est parti, puisque des gens lui disent que oui, des gens lui disent qu'ils l'ont vu. Et surtout, de elle, comment est-ce qu'elle va devoir, une fois qu'elle réalise que justement, il n'y a pas vraiment d'espoir pour elle, et que même si on sait très bien qu'ils vont peut-être essayer de les faire venir derrière, c'est pas forcément garanti, comment est-ce qu'elle va devoir aussi accepter ce carcan familial qui la force à se marier avec quelqu'un, sachant qu'elle est toute seule, quoi.
C'est un des plots, finalement, sur l'absence. C'est vrai que le plan, le lendemain du départ des hommes, on se retrouve en soirée dans une boîte de nuit où il n'y a que des filles, parce que tous les mecs se sont barrés. Ouais. Et on va voir ça justement. Que font les femmes une fois que les mecs sont partis ? Et une fois qu'on a dit ça, donc c'est le premier quart d'heure du film, eh bien il faut meubler.
Ouais,
faisait meubler, je l'ai dit, ça fait 1h45, donc il y a 1h30 à meubler. Et bon, alors on a filmé l'Atlantique une fois, on l'entend, ok, il est omniprésent. Et c'est vrai que c'est dans la tête de tout le monde, hein, c'est quelque chose de très présent. Mais une fois qu'on a dit que justement les mecs se sont barrés et qu'ils laissent un grand vide derrière eux, c'est difficile derrière de
c'est dommage. C'est dommage à quel point sur le papier justement tu te dis que t'es face à quelque chose de fantastique et qu'il y a moyen de développer plein de choses et qu'au final tout est déjà beaucoup trop développé. Mais après en même temps ils auraient tiré ce quart d'heure sur 1h30, ça aurait été un problème autre. Donc,
Alors c'est tiré c'est la suite d'un premier court-métrage Atlantique au pluriel. Il y a quelque chose d'intéressant sur l'aspect social, il y a une dichotomie, il y a une différence de classe, il y a ceux qui sont sur les chantiers qui triment, il y a le promoteur qui lui a la belle vie, est tranquille et qui roule en belle bagnole et qui vit dans une belle baraque, alors que les mecs sur les chantiers, ils vivent dans des maisons de parpaings, littéralement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. On a symbole justement de cette différence de classe, on a une tour en verre insolente qui domine les maisons en chantier, les maisons en parpaing, un désert littéralement de poussière autour d'elles, et qui à la fois ressemble à un phare et ressemble à une espèce de grosse verrue, quelque chose qui domine le paysage et qu'on voit en permanence et qui dénote par rapport à ce que vivent les personnages. On s'en sort avec une pirouette surnaturelle.
Autant ils te mettent les traditions familiales, et après ils te mêlent aussi les croyances. Donc ils te montrent un pays qui a aussi ses propres... Moi ça m'a beaucoup fait penser au dernier Baudello, à la Zombie Child, où ils vont justement te parler des croyances locales. Je sais pas exactement ce que c'est au final, c'est très peu expliqué. Mais il y a des espèces d'exercices de possession un peu étranges.
C'est la mémoire de ces mecs qui sont partis sur une pirogue pour traverser l'Atlantique et qui sont morts en mer, hein. Ouais, et qui vient les hanter. C'est le souvenir de ces mecs-là qui vient les hanter, tout simplement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est la culpabilité, d'une certaine manière, et le vide qu'ils ont. Bon, après, il y a des trucs intéressants. On voit l'Atlantique, donc elle pense à son mec qui est sur l'océan, et le mec qu'elle doit épouser, lui, se baigne dans une piscine. Autre distinction. On aura compris le tableau. Atlantique, Matty Diop, on conseille pas?
Clairement, moi non. En fait, je trouve vraiment pas que ce soit un moment très agréable à passer. Moi, je pense que c'est un film que, même si le sujet est fort et intéressant, on l'aura très très vite oublié. C'est un gros souci, quoi.
Moi-même, j'avoue que même pendant le film, je l'oubliais.
Bah, c'est un film fort qui te rentre pas en tête, en fait. Alors qu'avec un sujet comme ça, justement, l'essentiel serait de toucher le plus de monde et donc d'avoir de réussir à forcer son message. Et là, c'est pas le cas.
Un autre angle original, l'angle de Jodo.
Father, mother, sister.
Why don't you listen to me?
J'ai décidé de rendre à la terre ce corps de souffrance. Aujourd'hui, je désire mourir.
Cuando decidí hacer un arte para sanar, salí de mi encierro como una torre de marfil y entré en el dolor del mundo. Dime la frase.
¡Aquí estoy!
Sí, señor.
Y es la palabra. No sufras.
¡Vive! ¡Vive! ¡Vive!
Psicomagie, un documentaire d'1h44 d'Alejandro Jodorowsky.
Alex.
Jodo.
Jodo, voilà.
Tout simplement. Sigmund Freud avait inventé la psychanalyse. Jodorowsky invente la psychomagie. Une thérapie psychologique par l'art et par la symbolique, pour la résumer très brièvement. Et donc, il va nous montrer sa thérapie, ce qu'il a développé à travers des cas pratiques sur 1h44. Pour parler de ce film, je suis toujours avec Thierry.
Coucou.
Je suis avec Karl également.
Salut.
Et Marwan nous a rejoint. Salut Marwan.
Salut, hola muchachos.
Toujours doxiné?
Toujours.
Eh bien, messieurs, une question simple. Qu'avez-vous pensé de ce documentaire particulier?
Particulier, c'est le terme. Tu sens que c'est un documentaire fait par un cinéaste et pas fait par quelqu'un qui est spécialisé dans les documentaires, parce que avant tout, Jodo a bien choisi de montrer ça par le visuel et non par l'explication. Donc c'est pas lui qui peut... Enfin, t'as pas une des longues phases pendant 20 minutes où lui, il va t'expliquer tout le principe de la psychomagie, mais il te met directement des cas, en fait, des cas par cas, et il te montre comment régler différents cas. Enfin, comment est-ce qu'il a réglé différents cas. Donc en fait, on va voir... Première phase, les patients qui témoignent de comment ils se sentent, de quel est leur problème, l'acte, et ensuite généralement on va avoir ce qui se passe un mois, deux mois, six mois plus tard. Voilà. C'est assez spécial.
Ouais, on peut le dire. Ouais.
C'est assez spécial parce que c'est quelque chose, c'est une technique médicinale à laquelle on n'est pas du tout habitué. Si on connaît un petit peu le travail de Jodorowsky, je pense qu'on peut être très aguerri si on connaît le travail de Jodorowsky, on n'est pas tant étonné que ça, puisque toute ces phases de psychomagie, c'est ce qu'il a toujours fait dans son cinéma. Il a toujours mis en scène des personnages qui avaient d'énormes traumatismes et qui les règle dans ses films par ces manières-là. Alors là où tu pouvais voir un gloopy boulga de symbolique étrange, parce que ben, quand tu mates un Jodorowsky, si t'es habitué au cinéma classique et contemporain, si tu vas voir ton blockbuster toutes les semaines et que tu te retrouves devant El Topo ou La Montagne Sacrée,
tu flippes. Passer d'Avengers à La Montagne Sacrée, ça va faire mal au cerveau. Hein.
Voilà, les premières fois, c'est spécial. Moi, le premier, c'était Fandoilis. J'aurais peut-être pas dû commencer par prendre Willis, tu vois. C'était particulier, quoi.
L'inverse aussi, passer de La Montagne Sacrée à Avengers, ça peut faire mal.
Ça peut faire mal aussi, ouais. Mais ouais, donc du coup, donc t'as un exemple qui est, enfin, on voit une femme en fait qui nous explique que elle a un problème avec sa mère, un problème de non-amour avec sa mère, qui ne l'a jamais aimée selon elle, qui lui a demandé, enfin qui dès qu'elle était enfant l'a mis face à sa responsabilité, donc c'est devenu une adulte très rapidement parce qu'elle gérait concrètement sa famille par des parents qui ne voulaient pas s'occuper d'elle, donc qui lui ont refusé toute enfance. Et donc la technique que va proposer Jodorowsky, c'est de lui faire revivre une seconde naissance, et comme ça de pouvoir lui apporter toute l'affection que ses parents lui ont pas apporté dans un laps de temps très court, mais qui vont avoir une force symbolique et lui permettre de se libérer de ce qu'elle n'a pas eu, c'est-à-dire juste voilà, une naissance et une enfance heureuse avec des parents qui l'aiment. Et du coup, pour faire ça, ils vont vraiment le faire. Donc ils vont lui briser tous ses vêtements pour la ramener à l'état fœtal, donc du coup la mettre nue, puis l'envelopper d'un drap qui représente du coup l'ovule. Ils vont la mettre entre les jambes d'une dame nue âgée et d'un monsieur aussi, qui du coup voilà, vont la faire renaître une seconde fois, lui mettre un faux cordon, le couper et la couvrir de baisers, la couvrir de câlins pour qu'elle se sente bien. Après, on peut trouver ça très étrange. D'un autre côté, on voit les témoignages de ces personnes-là qui se sentent beaucoup mieux ensuite. Donc je pense que c'est hyper intéressant de se dire que c'est une méthode très alternative, très particulière, mais qui peut porter ses fruits si tant est qu'on arrive à y croire.
Mais après, oui, c'est vrai que c'est la force de la croyance. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas apprécier ou vont très vite, par pudeur, j'imagine, sortir du film en voyant autant de nudité, autant de scènes un peu particulières qui peuvent même les remuer. Ça a fait réfléchir sur bien des points, sur ce qu'on est, même sur... Personnellement, ça m'a touché sur des membres de ma famille, même sur moi-même. Donc en gros, dès que ça résonne, je pense que ça veut dire qu'il y a un fond de vrai.
Ouais, Jodorowsky, c'est un de ces gars qui n'arrive pas à tenir en place. C'est-à-dire, c'est un cinéaste, c'est un scénariste de BD, c'est un auteur. Il lit l'avenir dans les cartes de tarot, il fait de la magie. Et en fait, toutes ces facettes qu'il a sont juste différentes façons qu'il a d'exprimer son idée persistante, spirituelle, d'humanité, d'amour. Donc c'est tout ce que je déteste. Alors, bon, ce film, moi, j'aime Jodorowsky, j'aime voir les symboles qu'il véhicule, j'aime voir comment il les véhicule, mais ces gens qui sont en thérapie, qui vont mal et qui sont en train de se soigner, j'ai vraiment l'impression que je devrais pas être en train de les regarder. Et oui, c'est tout l'objet du documentaire, je m'en rends bien compte, mais ce ne sont pas des choses qui me, voilà, comme tu disais, qui me mettent à l'aise. En fait, je me suis retrouvé dans ce film à travers la politique des auteurs. C'est en me référant à d'autres trucs, ce que le documentaire fait lui-même. Chaque cas est introduit par un extrait de film de Jodo qui réitère soit les mêmes images, soit les mêmes idées. Et première parole du film, c'est Jodorowsky qui parle directement à la caméra, il place la psychomagie dans la continuité de la psychanalyse freudienne. Personnellement, je ne suis pas freudien, ou en tout cas, je ne crois pas du tout en la totalité de la pensée freudienne, ce qui fait que ces scènes où on va mieux parce qu'on fait semblant d'accoucher avec deux figures parentales, c'est pas forcément des trucs qui me font me dire « ouais, c'est sûrement la solution ». Même si, forcément, j'ai un peu d'empathie avec ces gens qui vont mal. Pareil, je connais des gens où j'ai eu des problèmes moi aussi, on en a tous. Mais voilà, cette façon de la régler m'intéresse plus par ses symboliques, par ses thématiques que... moi je ferai pas l'expérience de ça.
Après, le point que je pourrais reprocher au documentaire que j'ai apprécié dans l'ensemble, c'est qu'il n'a pas été assez explicatif. C'était un enchaînement d'études de cas. Et
parce qu'il n'y a rien à expliquer.
Il n'y a rien à expliquer, voilà. Donc ça laisse pousser le doute. On se demande réellement le sens de ce que l'on regarde. Et on se demande si c'est vraiment. S'il n'y a pas eu quelque chose de préparé. Il faut connaître aussi Jodo avant pour savoir qu'il fait ça depuis très longtemps, qu'il le développe depuis un moment. Et aussi ce côté cinéaste, réalisateur, pourrait étrangement, je pense, décrédibiliser pour pas mal de spectateurs sa psychomagie. Parce que... pour les gens, en général, ceux qui font des films, c'est des amuseurs, des gens qui divertissent. Et quand on les voit, même si ça fait très longtemps, passer à un niveau plus sérieux, à un niveau plus proche de la psychanalyse, mais à une autre sauce, je trouve que c'est dangereux de pas expliquer et de juste montrer.
Et parce que ça se base énormément sur la croyance, comme beaucoup de choses, mais comme beaucoup de choses sur la psychologie. C'est-à-dire que la psychologie, ça se base énormément sur les croyances. Et la psychologie a une importance sur la guérison de beaucoup de trucs, mais ce n'est pas forcément l'élément essentiel. Par exemple, quand on t'explique qu'on va soigner le cancer par la psychologie...
On sait que c'est plus facile pour une personne qui est soutenue et qui se sent aimée et qui a de l'énergie que pour une personne qui est seule et triste.
C'est un facteur super important dans la guérison, mais ce n'est pas le facteur essentiel.
Voilà, la chimio aide plus. Soyons honnêtes là-dessus.
Sur les éléments un peu particuliers aussi, dans ce qui peut être choquant, c'est que quand même il y a beaucoup de gens à poil, il y a beaucoup de contacts physiques.
Je trouve que c'est intéressant, c'est que ça remet en question notre perception de notre corps, et pour le coup ça a été vraiment le cas, c'est de savoir pourquoi ça nous dérange. Moi je pense que le film est intéressant pour comprendre comment ces gens-là ont pu passer ce cap, donc d'être filmés vivant des situations pareilles où ils sont à nu, où ils sont touchés, où au départ il y a une scène où il y a un passage où on voit la femme se faire découper les habits. Et comme on n'a pas encore conscience de la situation et de la psychomagie selon Jodo, bah, on se demandait jusqu'où on allait la mettre à nu.
Quand tu connais Jodo, tu sais qu'elle finit à poil.
C'est ça.
Plutôt que de voir psychomagie, faites-vous une introduction avec ce diptyque Danza de la Realidad, Poesia sin fin.
Je suis assez d'accord, je trouve qu'au final c'est vrai que là c'est la version concrète de ce qu'il a déjà fait de manière romancée, qui sera peut-être aussi beaucoup plus abordable, avec plein de choses qui sont particulières aussi, mais qui sont mises avec énormément voilà, de poésie, de romantisme, de plein de choses qui font aussi le charme de son cinéma, qui est, pour ma part en tout cas, assez fantastique.
Jodorowsky's Dune nous présentait le réalisateur Jodorowsky comme un gourou. Psychomagie le confirme, ici, pour le meilleur ou pour le pire.
Combien de temps ?
Comment tu vas faire ?
C'est rien.
C'est une honte, un pays qui laisse ses vieux mourir comme ça.
J'ai tout de suite vu que t'étais pas comme les autres.
Quels autres ?
Les vieux comme toi. La plupart, ils ont plus rien dans le ventre. Et toi ?
On sent qu'il y a un truc dans le bide.
Si jamais t'as besoin d'argent vite fait ou de quoi que ce soit, appelle-moi.
Combien de battements tu crois qu'il te reste ?
C'est quoi ce travail ?
C'est que de la basse ici, ça tape mon gars. Ça, c'est de la musique qui te fait planer.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce qui vous attend, c'est ça !
Vous avez des morts ?
Messieurs, ça ne vous excite pas ?
Enfin de l'action, là ! Allez, qu'on se prépare, hein !
C'est bizarre, en ce moment.
Après la maladie, la vieillesse, les deux sont souvent de pair. Vous êtes jeune, vous êtes beau, de Franchin Don, c'est dans son premier long métrage, avec Gérard Darmon dans le rôle principal. Gérard Darmon qui joue Lucius, un vieil homme sur sa fin de vie, hein. il est au bout du tunnel, hein, on le voit, l'image est très parlante au début du film, un peu trop parlante peut-être même, la symbolique est là, et bien c'est la vieillesse, la déchéance, et pour payer ses vieux jours en maison de retraite, on lui propose de participer à des combats de vieux, à des combats clandestins. C'est le pitch du film. Ça va plus tourner autour de la vieillesse finalement qu'autour des combats de vieux, même si ça va illustrer un peu. Il n'est pas tout seul au casting, on a également Josiane Balasco qui va jouer sa copine, sa petite amie. Patrick Bouchité également, un autre un comparse de galère. Denis Lavant, l'éternel Denis Lavant. Dès qu'il y a un film de genre français, il est là. La vieillesse est un naufrage. Ce film est-il à l'image de la vieillesse qu'il dépeint ?
On a souvent critiqué les films en disant qu'ils avaient un rythme lent, mais là j'ai vraiment senti un film qui se complaisait dans sa lenteur. Cinématographiquement, oui c'est joli, mais comme tu disais, les symboliques sont entre beaucoup et trop appuyés. Et oui, c'est long, et une fois qu'on a le pitch du film, là, les combats de vieux, alors déjà ça met du temps à démarrer, les 20-30 premières minutes, en fait le début et la fin c'est le plus violent dans ce film. L'installation est très longue et il y a un moment où en fait on s'éloigne de l'histoire des combats de vieux et on rentre dans 3 ou 4 sous-intrigues différentes, mais où toutes les 3 minutes on a l'impression que le film devrait finir et où il finit pas, il reprend alors que les thématiques ont déjà été abordées, déjà exploitées, mais on ne fait que répéter pendant une demi-heure et ça devient vraiment lassant.
Oui, c'est ça, on nous appâte avec les combats de vieux, mais ça arrive relativement tard.
Ça finit assez tôt.
Moi, tu m'aurais pas dit qu'il y aurait des combats de vieux dedans, parce que je savais du coup cette information. J'aurais été assez surpris que ça parte là-dedans, justement, parce que c'est vrai qu'au moins le film ne t'y prépare pas, par contre. Mais au final, le film entier est résumé par Denis Lavant, qui joue Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, fantastique d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait au moins un avantage, c'est que tout le monde jouait très bien là-dedans. Et que là-dessus, ça faisait aussi plaisir, même si ce sera pas forcément à leur honneur au final. Ça fait plaisir de voir Darmon dans un rôle un peu à contre-emploi, de pas aller faire le second rôle marrant. Ou... En plus, il a une voix très grave, ce monsieur, il a une allure, il a quelque chose. Et là, justement, jouer le vieux un peu austère, qui est aigri, qui savoure sa vie sans la savourer, c'est assez intéressant. Mais enfin, le film est assez résumé en fait dans les discours que fait Denis Lavant avant chaque combat, où il dit justement on est devant, enfin à chaque fois il va modifier un petit peu son discours, il dit on est devant voilà, la décrépitude humaine, ces gens qui ne servent plus à rien, qui sont inutiles, et en gros là, doivent-ils encore s'accrocher et se battre pour vivre, ou doivent-ils tout simplement abandonner le combat et mourir? Et au final tout le film est à l'image de ça. Les gens que va rencontrer Darmon, qui sont les gens avec qui il combat, sont des gens qui essayent de se raccrocher à quelque chose, qui ont certains buts. Certains, c'est juste d'essayer de maintenir la jeunesse éternelle tant qu'ils le peuvent. D'autres, c'est juste de se laisser aller tranquillement. Mais en tout cas, oui, voilà. Enfin, c'est ceux qui abandonnent le combat, c'est juste les vieux en réelle fin de vie qui sont juste en train de cloître dans une maison de retraite, quoi. Donc c'est ça. C'est le discours est plus parlant que tout le film, et tout le film s'étend sur 2 heures pour raconter ça.
On a dû aller sur les champs parce qu'il n'est pas diffusé partout. Donc Frank Shandon, oui, c'était quelqu'un qui a fait des films publicitaires en Chine, surtout. Voilà. Ce qui explique un peu certains plans, un peu avec une jolie lumière rouge. On se dit, putain, une pub pour du parfum ou des trucs comme ça, pour des bagnoles. Et c'est adapté, semble-t-il, d'un bouquin, À nos pères, de Tariq Nouhi. Et il semblerait que de nombreux dialogues...
Et Tariq Nouhi est le co-scénariste du film, en fait.
Voilà. Eh ben justement. Donc c'est complètement tiré de son bouquin. Et la plupart des dialogues sont tirés directement du bouquin. Donc ce qui explique sûrement les tirades magnifiques de Denis Lavant.
Mmh. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ça, en fait. C'est que les qualités diégétiques du film sont très intéressantes. Tout est percutant quand ça doit l'être sur le papier. Après, bah, malheureusement, il y a une exécution qui devient assez pénible parce que justement, bah, au final, le film a des choses à raconter, mais pas suffisamment pour que ça tienne sur un long métrage.
Et oui, les combats de vieux, on s'essouffle assez vite. Hein. On n'a plus l'endurance, le cœur ne bat plus assez fort.
Vous êtes jeune, vous êtes beau.
Bon, si vous le voyez passer, pourquoi pas. Je suis assez étonné qu'il soit sorti au cinéma. Je l'aurais plus vu en VOD direct, un truc comme ça.
C'est pas forcément le temps de savoir où est-ce qu'on le verrait. C'est juste que c'est limite une prouesse d'avoir réussi à mettre des ronds pour le distribuer là, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas le genre de film qu'on imagine tout court, en fait, en général.
On recommande ou pas?
Moi, non.
Non, non plus. Bah, c'est pas non plus affreux, quoi, mais non.
On va passer à quelque chose d'un peu plus jeune.
Jour J demain, c'est fini le mariage. Là, on passe au stade supérieur, ma fille.
Allez, papa, à demain.
Je peux pas t'accompagner demain.
Moi, j'y vais pas sans toi, papa.
Dernier jour.
J'aimerais bien que t'accompagnes ta soeur demain à son rendez-vous.
Ok.
Ah, merci, ma fille.
Évidemment que non. On habite dans la même ville, c'est pas au moins un an qu'on s'est pas vu.
Quand on déjeune une heure, toutes les deux, on a rien à se dire. Et là, tu nous demandes de faire 4 heures de route ensemble.
C'est le dernier tour des auditions pour les choristes francophones de Céline.
Ah, me dis pas que tu dis Céline pour Céline Dion.
Je vais pas dire Pascal, elle s'appelle Céline.
On était dans le drame, on va dans la comédie, comédie-drame, hein, entre les deux. J'irai où tu iras. Karl ricane pendant ce temps-là. Oh, quel mauvais esprit. Un film de Géraldine Nakache, avec Géraldine Nakache et Leila Bekti, sa copine. Elles font beaucoup de films ensemble, hein, c'est encore depuis Tout ce qui brille. Avec également Patrick Timsit, qui joue leur père dans le film. Et on a également Pascal Arbillot, entre autres. Géraldine Nakache joue Vali, une chanteuse qui rêve d'être choriste pour Céline Dion. Elle court donc tous les castings, accompagnée de son père Patrick Timsit. Et le jour de la grande audition, l'audition finale, hélas, le papa ne peut pas l'accompagner. Il demande donc à sa fille, à la sœur hein, de Vali, à Mina, jouée par Leila Bekti, de l'accompagner pour cette audition. Petit souci, les deux sœurs ne se parlent quasiment pas, elles n'ont absolument pas le même caractère, et elles se font la gueule, elles peuvent passer une heure sans s'engueuler. Alors vous imaginez un week-end. comédie dramatique, vont-elles se crêper le chignon pendant une heure et demie, ou bien se rabibocher, avoir de l'émotion ou autre, bah, aller voir le film ou pas. Faut-il aller voir ce film, bah, Thierry, tiens, voilà.
Bah, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça sympa. J'étais pas un grand fan de Tout ce qui brille, et je crois qu'elle avait fait New York aussi.
Alors oui, elle avait co-réalisé New York, ouais, aussi.
J'avais pas spécialement accroché, mais je pense que c'était une question d'âge. Et au vu des qualités d'écriture de ce film-là, ça me donne limite envie de revoir au moins Tout ce qui brille. J'ai passé un bon moment, je trouve que c'est un beau film sur la famille. Alors, il a des ressorts qui sont assez grossiers par moment et qui peuvent devenir très lourds. Donc, à partir du moment où on commence à trouver ça lourd, ça peut devenir très vite insupportable. Moi, ça m'a plutôt touché parce que ça m'a fait penser à plein de choses. Enfin, surtout au niveau du... Au début, c'est le papa qui est très lourd, le papa qui fait des blagues, le papa qui fait des blagues constantes, qui m'a beaucoup fait penser à mon père. Et même sur ce côté, le père apprend qu'il... Enfin, c'est dès le début du film, hein, le père apprend qu'il a un cancer. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas accompagner sa fille. Et du coup, tout est basé sur le côté, bah, il ne lui dit pas parce qu'il ne faut pas de dire ce genre de choses.
Mais son caractère, c'est de prendre la fuite tout le temps. Et s'il fait des blagues, c'est pour fuir la réalité tout le temps et pour c'est faire ça. Rire et pour fuir la réalité. C'est pour ça qu'il en devient pénible à gifler. Alors son personnage, pas lui, parce qu'il a une, je trouve qu'il a une prestation incroyable.
Donc je me suis senti un peu, pas forcément concerné, mais en tout cas, ça m'a touché parce que ça m'a fait penser à des caractères que je connais. Et le caractère tout le temps léger, tout le temps blagueur, qui ne prend jamais rien au sérieux, ça clairement... j'ai le même père, quoi. Les personnages sont très très bien écrits et sont très, enfin, les actrices et du, enfin, le duo d'actrices et Tim Seed du coup de son côté sont très bien dirigés. Du coup sur ce point-là, je trouve que c'est une grosse réussite. Après, est-ce qu'on retiendra beaucoup de choses? Je pense que voilà, question de personnel. C'est un film qui sort pas trop des sentiers battus au niveau de son message. Passe un bon moment, mais pas forcément un film de postérité.
Non, sur le message, au contraire, ce sont des personnages qui sont pénibles. Mais on comprend pourquoi ils sont pénibles, c'est parce qu'ils sont dans leur bulle à eux, dans leur, pour fuir leur réalité, parce qu'ils ont eux-mêmes une souffrance. Et d'ailleurs, la plupart des personnages principaux, les personnages développés, ont tous une blessure, quelque chose qui les touche profondément. Et c'est pour ça qu'ils sont ultra pénibles. Et les choses s'arrangent entre guillemets à partir du moment où on élargit un peu le spectre et on regarde ailleurs que son nombril.
Il faut comprendre que la personne en face de toi a... peut-être exactement la même blessure, mais elle ne la gère pas de la même façon. C'est pour ça que c'est une question d'accepter les caractères et de se dire aussi, c'est pas parce que toi t'es comme ça que tout le monde l'est et que tu réfléchis que par ton filtre en fait.
On disait donc les personnages réagissent parce qu'ils ont leur raison, chacun est dans sa bulle, et on a l'artiste, l'hypersensible, la chanteuse Géraldine Nakache, mais aussi on a Leïla Bekti qui semble froide et insensible, alors qu'en fait elle prend tout dans la gueule. Mais je me tourne vers celui qui est froid et insensible, enfin qui semble l'être, parce que je sais qu'au fond il a un petit cœur. Karl, qu'as-tu pensé de ce film?
Mais moi j'ai eu beaucoup d'empathie pour le personnage de Leïla Bekti qui essaie juste de vivre sa vie tranquillement et que tout le monde emmerde. Son père l'emmerde en la forçant à être avec sa sœur qui a déjà pas mal participé à lui voler son enfance. Elle est forcée de lui rendre service, donc humiliation auprès de la sœur qui a toujours été le centre d'intérêt. La sœur est une casse-couille du début à la fin sans jamais se soucier de ce que peut penser Leïla Bekti. Après, elle arrive et tous les autres estiment qu'elle doit se comporter comme eux. Moi, j'ai toujours vécu ça en soirée. En soirée, tout le monde me casse les couilles parce qu'on me dit que je devrais sourire plus et que je devrais danser quand il y a de la musique. Mais j'ai pas besoin de hurler à la face des gens que ça va et que je m'amuse. Des fois, faut juste me foutre la paix. Ça va bien. Et j'ai vécu Leïla Bekti qui, pendant 1h40, voudrait juste qu'on lui foute la paix. Et du coup, oui, il y a des trucs d'écriture, enfin oui, comme disait Thierry, ça va pas casser des briques niveau originalité ni rien, mais pour les quelques qualités qu'il y avait, moi, j'ai passé tout le film à dire, mais fermez vos gueules, le père qui va juste enregistrer son Bluetooth dans la voiture pour que chaque fois qu'on rentre, on entende portable branché, 4 fois avec sa voix, mais putain, mais ferme ta gueule, fous-moi la paix, 5 minutes dans ta putain de vie.
Et qui va tous les matins payer les ouvriers à l'avance et leur filer des gâteaux alors que sa fille lui a dit qu'absolument fallait pas le faire, c'était sa maison à elle, c'est pas à lui de le faire.
Et du coup, moi j'ai juste été en empathie avec Leïla Bekti, c'est foot. Et à la fin d'ailleurs, je spoil, mais vous le savez déjà, elle se réconcilie. Mais pourquoi? La dernière conversation qu'elles ont, c'est une grosse engueulade qui s'est terminée sur une engueulade, et c'est tout. À la fin, elles sont super contentes parce que leur papa a le cancer. On va peut-être le couper, ça.
Alors,
Mais à la limite, moi, je voudrais un 2 où t'apprends que les deux font semblant d'être copines pour soutenir leur papa et où en vrai, dans le dos, elles se plantent des poignards.
Oh, mais quelle méchanceté.
C'est ça que devrait annoncer la fin.
Il n'y a pas de réelle réconciliation, en fait. Moi, j'ai pas
vu. Mais pas.
Mais non, il n'y en a pas, mais il n'y a pas non plus de conflit. En fait, si tu veux, c'est qu'elles réalisent l'une comme l'autre qu'elles ne se comprennent pas. Et c'est ça leur point commun. C'est ça qui fait leur force. C'est qu'elles disent, ouais, on n'arrivera pas à se comprendre là-dessus, mais on est sœurs et on est quand même soudées. Et pour moi, ça s'arrêtait là-dessus et c'était très simple à comprendre.
Ah oui, alors moi, j'ai un gros problème avec le côté « c'est ma famille, donc quoi qu'il arrive, non ». Alors, je veux bien qu'on soutienne sa famille, je veux bien, ça, pas de problème. Mais il y a un moment où, quand dans ta famille, il y a quelqu'un qui est toxique, faut aussi prendre des dispositions pour soi.
Ouais, non, mais ça dit aussi que, de toute façon, une fois que les parents sont plus là, il reste que soi et on n'a pas forcément la chance d'avoir ses parents. Enfin, bon, c'est bref, la famille, c'est compliqué. Voilà, et voilà. Gérer où tu iras, il faut faire avec. Non, mais sinon, t'as passé un bon moment ou pas?
Ah non, 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 vraiment, j'avais envie de tarter tout le monde, sauf Léa Becti.
Voilà. Ben moi aussi, j'avais envie de tarter tout le monde, mais comme les personnages sont bien écrits, je comprenais pourquoi j'avais envie de les tarter. Donc bon, j'avais toujours envie de les tarter, mais j'avais un certain plaisir. Non, mais disons que j'avais pas envie de les tarter parce que c'était des mauvais personnages de mauvaise comédie. J'étais content de comprendre pourquoi est-ce qu'ils réagissaient comme ça et... C'était un petit plaisir de voir, ah oui, mais en fait, il est comme ça. Bon, il est toujours chiant, mais il y a une progression, il y a une petite compréhension qui se fait.
C'est mieux quand tu sais pourquoi tu évites le fou du métro, je suis d'accord.
Voilà. Bon, bref, vous avez compris, les avis sont partagés, mais pour une comédie, franchement, on s'en sort plutôt bien, c'est plutôt bien écrit. J'irai où tu iras, je vais maintenant voir un blockbuster avec Will Smith.
Will Smith ira où ira Will Smith.
I think I know why he's as good as you. He is you.
25 years ago, they made you from me. They chose me because there's never been anybody like me. We have to end this right now. You have all of his gifts without his pain. You made a person out of another person. Then you sent me to kill him. You made a choice to do this to me.
Dans Suicide Squad, Will Smith jouait un tueur bon papa. Dans le dernier Aladdin, Will Smith jouait un bon papa numérique. Et bien cette fois-ci, il réunit les deux dans Gemini Man, à la fois super tueur et image de synthèse. Gemini Man de Ang Lee avec Will Smith et Will Smith en version rajeunie.
Avec Will Smith et le prince de Bel-Air, les deux.
Et également d'autres acteurs, paraît-il. On m'a dit qu'il y avait Marie-Elizabeth Winstead, il y avait Clive Owen aussi, au passage, mais...
Benedict Wong.
Et Benedict Wong, effectivement. Will Smith et Henry Brogman, le meilleur tueur du monde. Bon, voilà, et comme il a tué la mauvaise personne parce qu'il a été manipulé, vous comprenez, c'est un gentil tueur. Eh bien, une méchante société secrète va envoyer un autre tueur pour l'éliminer. Il s'agit de son clone plus jeune. Réussira-t-il à se vaincre lui-même ? Oh, quel suspense ! Alors, le gros point du film, bon, outre le fait qu'il y a deux Will Smith, donc ça fait plutôt partir en courant. Non, alors, c'est qu'on a une ultra qualité de la mort. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre la 3D active, le grain, etc. On a ce qui se fait... le mieux dans la qualité technique au Cinoche. Bon, le problème, c'est que ça ne concerne qu'un faible pourcentage des salles.
Ang Lee, ça fait partie de ces gars qui sont des espèces de geeks technologiques à fond les ballons. Un peu à l'image d'un Zemeckis ou un peu à l'image d'un Cameron, c'est des gars, dès l'instant qu'il y a un nouveau joujou au point, ils veulent absolument le tester et faire du cinéma avec. C'est tout à leur honneur. Ça leur permet de faire des trucs. Ça nous a permis d'avoir des trucs comme l'Odyssée de Pi, qui n'était pas adapté à toutes les salles quand il est sorti, mais tu le voyais dans une salle normale, il était super bien. Ça avait permis de voir le Billy Lynn, je sais pas quoi, qui était sorti il y a 2 ans, je crois. Pareil, si t'étais pas dans une salle qui ne te permettait pas de faire le 120 FPS, enfin le je suis en train de parler, le 120 images par seconde.
Ouais, frame par seconde.
Voilà. Tu pouvais quand même le savourer. Là, le problème, c'est qu'il a axé toute sa mise en scène là-dessus. Donc, il y a quand même des plans où c'est... Enfin, non, mais t'as certains plans où c'est quand même juste un gars qui avance entouré de flammes. Et donc, du coup, tu te dis, ah ouais, ça en 3D, ça doit déglinguer la rétine. Sauf que là, on est juste en train de nous montrer un mec qui avance dans des flammes. Tout n'est pas comme ça, mais il y a un côté putassé, il y a un côté comme s'il était dans le film qui essuie les plâtres de ce genre de technologie pour nous faire une démo technique, alors que Ang Lee n'a pas besoin de ça et pourrait proposer un film d'action tout à fait crédible parce qu'on le connaît, on sait que c'est un putain de metteur en scène, d'ailleurs là on en a la preuve, et on sait qu'il sait faire de l'action, mais là il se... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se castre un peu lui-même quoi.
D'un côté, il faut ce genre de film parce que ce sont ces films qui font avancer la technique et qui permettent bah, d'avoir le cinéma parlant, puis le cinéma couleur, puis le cinéma 3D et tout ça. D'un autre côté, est-ce que ça aurait pas valu le coup de faire un film dont l'histoire, ou en tout cas l'esthétique, permet de vraiment focaliser là-dessus, et comme le disait Thierry, que ça fasse un bon film, même si tu vois pas dans les conditions supra-optimales. Moi, si on me dit qu'un jeu vidéo n'est bon que si tu joues dans la parfaite chaise du gamer qui peut faire les vibrations et tout, dans un salon éclairé à 90... Ouais, c'est pas un bon jeu, bah, au bout d'un moment.
C'est comme beaucoup dans l'industrie, surtout sur les jeux PC, peut-être un peu moins sur les jeux consoles, quoique ils sont faits pour les consoles. C'est vrai qu'il y a plusieurs configurations, et il y a ceux qui veulent avoir la dernière config au poil avec les méga graphismes, et puis il y a ceux qui veulent juste jouer avec les configs minimum, et c'est toujours ce même débat. Là, du coup, sur la technique, tant qu'on y est, on va y aller sur les graphismes et sur la beauté du film en lui-même. Sur la 2D, on va aller là-dessus. Donc, même si on n'a pas vu dans les meilleures conditions, c'est quand même très beau.
Ouais.
C'est quand même magnifique sur la technique. Alors, moi, j'avais un peu peur, j'avoue, parce que quand j'ai vu les bandes-annonces sur mon PC, j'ai trouvé ça bien dégueulasse. Hein, soyons honnêtes, les images de synthèse ne convainquaient pas du tout. Et ici, eh ben ça marche plutôt bien. Alors, je trouve qu'on va être sur la technique pure, puisque c'est l'argument principal du film, on l'a compris. Les images en gros plan, le visage de Will Smith est bluffant à 99,9%.
Surtout que Will Smith, c'est pas comme l'amiral Tarkin dans Star Wars. Will Smith, on sait à quoi il ressemblait quand il était jeune. Ouais. On connaît sa gueule par cœur depuis qu'il a 17-18 ans. Donc, le rendre ça crédible, c'est rappeler tout un imaginaire collectif qui date d'il y a 20 ans.
Donc, très bluffant quand il est en plan fixe et qu'il parle. Après, dès que le corps bouge, c'est un peu plus difficile, c'est peut-être c'est un peu plus dérangeant. Donc, on a toujours cette fameuse Uncanny Valley, cette fameuse vallée dérangeante. C'est pour ça que je dis 99,9%, parce qu'il y a encore des petits trucs qui font tiquer, mais ça reste techniquement très bluffant.
C'est vraiment la logique des corps qui, des fois, est un petit peu étrange. Il y a une scène de dialogue, alors pourtant, c'est pas un corps qui bouge. Il y a une scène de dialogue où donc ce jeune Will Smith est torse nu, il est blessé. On est en train de le soigner, il est en train de parler donc avec son père de substitution, là, joué par Clive Owen. Et en fait, le problème, c'est que du coup, là, c'est Will Smith qui joue avec le visage intégré. Alors, au niveau du visage, même les émotions, c'est très bien. Mais même si ils ont gommé le mec de 50 balais au niveau du corps, il a un corps bien tanké par rapport à sa tête. Et du coup, moi, j'ai trouvé vraiment que là, il y avait un souci. C'est ce genre de truc qui m'a dérangé. Et certains moments où, quand il bouge, ouais, ça fait un peu gros robot qui avance avec une tête tout à fait logique. Mais au-delà de ça, c'est vrai que là-dessus, il n'y a rien à dire. Et ça permet surtout... Ça a permis surtout dans les scènes d'action, puisque c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser, hein, ce film est bon pour ces scènes d'action, pas pour le reste. Ça permet surtout de pouvoir faire de la mise en scène hyper impressionnante. Il y a des espèces de longs plans travelling, ou même de longs plans où il va suivre des personnages à une vitesse mais folle. Alors ça, j'avoue qu'en 120 images par seconde, ça doit déglinguer la rétine. Il n'y a aucun souci pour ça.
Il y a le jeune Will Smith qui à un moment met un coup de roue de moto au vieux Will Smith, et là on était côte à côte, on a tous les deux fait « Oh !» Parce que vraiment... Tu le ressens quoi, enfin, ça doit faire mal.
C'est du bike fou, hein. D'après la promo, c'est un art martial à coups de moto.
Mais comme on dit, vu qu'il y a cette révolution technique, à mon avis, les infographistes ont passé leur temps, ils ont dû faire des dépressions pour que ça soit un minimum crédible. Alors oui, le raccord visage-corps qui est vraiment des trucs... Si dans un film, un humain n'est pas représenté comme un humain se comporte, l'œil va le remarquer et ça ne peut que faire un truc dérangeant dans... c'est tout le concept de l'Uncanny Valley. Pourquoi je raconte ça? C'est le concept de l'Uncanny Valley.
Vous le rappelez à ceux qui le connaissent pas.
Et en tout cas, tu vois que ça avance beaucoup. Tu as parlé de l'amiral Tarkin. C'est vrai que j'ai revu Rogue One il n'y a pas longtemps. Et oui, non, en effet, les scènes avec Peter Cushing, ça fait, t'as l'impression qu'il y a une cinématique de jeu vidéo implantée en plein milieu de la scène. Au final, c'est pas si beau que ça. Mais en tout cas, à l'époque, c'était assez impressionnant. Là, on a vu les bandes-annonces de Irishman qui arrive, où on va avoir pas que De Niro, mais c'est surtout lui qu'on voit dans la bande-annonce, qui est sur plusieurs générations, donc grimé numériquement à plein d'étapes de sa vie. Ça a pas l'air très beau, mais j'attends de voir. Mais c'est vrai que là, il y a quand même un degré de réalisme qui est assez impressionnant. Donc cette technologie commence à vraiment atteindre un aboutissement assez particulier. Je sais pas ce que ça va donner pour le cinéma plus tard, mais En tout cas, on a atteint un stade où on peut vraiment exploiter ça.
Donc la technologie, le défi technique, en tout cas, est réussi. Qu'en est-il du défi artistique maintenant ?
Eh ben, c'est pas bien.
Tout ce que j'ai entendu sur le film, c'est ouais, la technique, c'est vraiment intéressant. Si on s'intéresse à la technique, si vous ne vous intéressez pas à la technique, même les scènes d'action, je sais pas si ça vaut les deux heures.
Non, bah c'est ça. Si c'est pour faire un film lambda et pas très bon, avec plein de défauts, mais qui a juste une technologie supérieure dans ses scènes d'action, on s'en fout, quoi. On n'est pas là pour voir ça.
Je suis pas dans le bon état d'esprit en sortant un film d'action. Surtout, réalisé par Ang Lee, qui est quand même pas une tâche niveau action. Il a même réussi à rendre Hulk presque regardable.
Ouais, c'est ça reste un gros nanar, même si ultra HD, hein, c'est pas la question, mais ça reste un gros nanar, avec les écueils habituels des films avec Will Smith, c'est-à-dire que Will Smith, même quand il joue un méchant, est un gentil. Et d'ailleurs, bon, ils se battent un peu au début, mais pas vraiment à fond. Et à la fin, le méchant... Est-ce qu'on spoil vraiment à la fin ?
Non, quand il y a deux Will Smith, c'est des gentils, quoi.
Quand il y a deux Will Smith, c'est les jeux... Oui, parce qu'évidemment, les Will Smith, comme c'est des gentils, ben, ils vont faire l'alliance des gentils Will Smith. Bon, ça se comprend. Non, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on a les écueils de Will Smith. Il y a le coup... Il y a un truc avec la paternité. Alors cette fois-ci, il n'est pas complètement bon papa. C'est-à-dire qu'il est père d'une jeune fille quand il va faire un assassinat, donc il est quand même super gentil. Et là, c'est le problème avec le père de substitution du jeune Will Smith. Voilà. Mais il y a toujours un problème.
C'est Will Smith, le bon papa, pour dire que le père de substitution c'était pas bien. Le vrai bon papa, c'est Will Smith.
Même s'il a fait tout ce qu'il a pu comme père de substitution d'une arme humaine, bon, et ben non, ça suffit pas.
Et même le vrai Will Smith regrette de ne pas pouvoir être un mari et un papa.
T'as l'impression que Ang Lee était pas du tout intéressé par son scénar, qu'il en avait rien à foutre et que le mettre en valeur, c'était pas du tout un intérêt pour lui. Lui, à mon avis, il voulait jouer avec sa caméra, il voulait s'éclater, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans ses scènes d'action. Il a fait tout ce qu'il a pu, et même si elles sont beaucoup trop courtes, du coup, et beaucoup trop peu existantes, moi j'en compte réellement, vraiment, des vraies scènes d'action où j'ai eu l'impression de voir Ang Lee s'éclater, j'en compte deux. La poursuite en moto et la scène de fin avec le gars masqué. Les autres, j'ai trouvé que c'était à la limite très scène d'action, prétexte à avancer. Et on sent que l'intrigue l'intéresse pas, parce qu'il en a rien à foutre de ça. C'est juste, bon bah là, de toute façon, il y a des scénaristes qui lui ont écrit un truc, qui se galèrent depuis 20 ans à remanier un scénar, donc il le fait avancer. Mais Ang Lee, je pense que bon, il écrit des trucs aussi, hein, mais je pense que tu lui mets un putain de très 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 bon scénar d'action, plus simple que ça, et tu lui dis, voilà, là tu fais vraiment tout ce que tu veux, il peut nous pondre un monument. Laisser Ang Lee bosser avec une meilleure équipe, quoi.
Il a quand même fait Tigre et Dragon, quoi. C'est pas un tocard.
Ouais. Alors moi, je viens de découvrir. C'est lui qui a réalisé Brokeback Mountain aussi.
Oui.
Et ouais, c'est ça qui est assez incroyable, quoi. En relisant, en préparant le film, je me dis, putain, c'est lui qui a réalisé ça.
Il est incroyable dans sa capacité à changer constamment de thème, en fait, et à aller que vers des trucs, soit sur des sujets qui lui plaisent énormément, Brokeback Mountain, l'Odyssée de Piste, genre de truc, soit sur aller sur des défis technologiques. En l'occurrence, celui-là.
Il a un côté Spielberg asiatique, très versatile, très polyforme.
Gros nanar, réussite technique, mais déception artistique. Voilà.
Dans 10 mois, il y aura le best-of des scènes d'action sur YouTube. Regardez ça.
Non, mais de toute façon, dans quelques mois, vous le verrez à Darty ou à la Fnac ou à Boulanger sur les écrans haute définition pour vanter les écrans.
À Auchan, à 4 euros entre premier de la classe et. Et je sais pas. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme. Vous êtes jeune, vous êtes beau.
Non, il sera offert avec un lecteur méga Blu-ray de la mort qui tue.
Vous êtes jeune, vous êtes beau, je suis même pas certain qu'il aura une sortie physique pour l'instant. À mon avis, il va se diriger vers plateforme et VOD, celui-là.
Vous, attends, qu'est-ce qu'on a vu comme bonne comédie française de merde ?
Ils vont le vendre par contre, ouais.
À part Thalasso.
Beaux-parents.
J'ai pas vu celui-là.
Waouh, c'est.
T'aurais adoré.
Tu comprendrais pourquoi on dit caviar.
Tu comprends.
C'était certain les machos. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci Karl.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve le week-end prochain pour un nouvel épisode. En attendant, bien abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et venez nous rejoindre également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clacpodcast, C-L-A-A-C podcast. Commentez l'épisode, dites-nous si vous l'avez aimé ou pas. Partagez-le pour le faire connaître. Mettez également peut-être des étoiles sur votre application de podcast pour la faire découvrir à d'autres personnes. Et nous aider à faire connaître l'émission un peu plus. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous. Je vais en profiter pour faire deux petits apartés. Nous avons deux petits trocos cette semaine et des petites surprises. On a Thomas qui a participé à un épisode de Adapte-moi si tu peux, donc le podcast de Victoire Bouquillon qui était venu avec nous pour Cold War et qui donc du coup traite des films adaptés de livres en traitant d'abord l'aspect livre, enfin l'aspect écrit puis l'aspect filmé. Et tu as fait un épisode sur Le Crime de l'Orient Express, donc d'Agatha Christie.
Mais excellent aussi, roman, excellent roman.
Mais aussi la version de Sidney Lunange déconne de Kenneth Branagh.
Excellent roman, excellent roman.
Et aussi le réseau Podcastéo a publié un enregistrement que nous avions fait au Paris sous les pods, qui est un enregistrement que nous avons fait avec plusieurs invités sur la saga de jeux vidéo Zelda, que j'imagine vous connaissez tous quand même, on n'est pas dans des grottes. Ça s'appelle A Link to the Cast. C'est disponible donc sur Podcastéo. Allez écouter ça, voyons.
Et oui, ainsi que toutes les autres émissions de Paris sous les pods. Paris sous les pods, c'est un week-end organisé par l'association de podcasteurs Podcastéo. Et ceux-ci se réunissent pendant un week-end sur Paris pour enregistrer plein d'émissions. Alors là, cette fois-ci, c'était sur Paris, mais il y a aussi Lille sous les pods et il y aura aussi d'autres villes sous les pods. Stay tuned, comme on dit. Et non pas stay iTunes.
Montargis sous les pods.
Montargis sous les pods, pourquoi pas.
Saint-Pierre et Miquelon sous les pods.
Ça peut être cool avec des pingouins et tout.
Par contre, j'y vais pas à celle-là.
Excellent.
Putain, on est au niveau de Thalasso là, du caviar.
Merci fort.
Je sais comment j'ai pu.
Moi non, ça va. Mais c'est la fin de semaine, c'est normal, on est fatigué. Il fait froid.